19h24 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Mathieu Béliard.
Les pistes entrouvertes par Emmanuel Macron pour répondre aux gilets jaunes et sortir du grand débat national, à vos yeux, vont-elles dans le bon sens? Est-on à la hauteur des enjeux? Notre débat ce soir jusqu'à 20h avec Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir, la droite constructive, candidate aux élections européennes aussi, sur la liste Renaissance de Nathalie Loiseau. Bonsoir Fabienne Keller.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, ancien maire de Strasbourg aussi, précisons-le. François Bouleau est avec nous également, avocat, porte-parole des gilets jaunes de Rouen.
Oui.
Porte-parole, on peut dire ainsi,
en
Seine-Maritime. François Bouleau, merci d'être avec nous. Mickaël Darmon également, tous les soirs.
Bonsoir.
On s'arrête
avec,
à 20h ce soir, Mickaël,
oui.
Éditorialiste au service politique de la rédaction d'Europe 1. Merci d'être avec nous, Mickaël, et vous, bien sûr, vous, au 39-21. Mais d'abord, à 19h25, Benjamin Muller est avec nous.
Bonsoir Mathieu.
Comme chaque
Bonsoir
jour, on voit
tous.
Comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. De quoi parle-t-on aujourd'hui?
Écoutez, aujourd'hui, on parle d'une école qui pourrait bien disparaître, et c'est toujours triste, une école qui ferme.
Alors, l'information a fuité dans la presse, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Aïe, 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 fermer l'ENA, l'école où on s'est connus, Omblin et moi, tous ces souvenirs qu'on a en commun, aux oubliettes, à cause de gens qui n'ont même pas le bac et qui s'en prennent à nous, les bons élèves.
Ah, l'ENA, vous savez, c'est nous sommes entourés d'énarques, là, qu'est-ce qui a coulé la France? Ce sont les énarques. Qui est au pouvoir en ce moment? Les énarques. Qui ne comprend pas les Français?
Les énarques. Et voilà que les énarques qui sont quand même montrés du doigt, mais de là à fermer l'école, non. Avis tranché de Nicolas Barré ce matin sur Europe 1.
Oh, écoutez, disons les choses, c'est une idée parfaitement démagogique. L'ENA, c'est un symbole, c'est un bouc émissaire facile. On la supprime, très bien. Est-ce qu'on a pour autant résolu le problème posé, à savoir le manque de renouvellement des élites? Non.
Voilà, Nicolas Barré, donc pas très enthousiaste. Et il est loin d'être le seul, propos entendu sur RMC ce matin.
C'est le type même de la grosse ficelle, d'une fausse bonne idée, de quelque chose qui coûte finalement pas cher. Mais le problème n'est pas l'ENA, le problème, il est quand l'ENA est devenu un club.
Et oui, un club où les énarques se retrouvent quelques années plus tard dans les mêmes gouvernements ou travaillant dans les mêmes tranches d'infos du soir sur de grandes radios nationales. Ambline, vous l'ai dit, on s'est fait gauler. Ouais, sur Twitter, une vidéo est ressortie aujourd'hui, vieille de 2016. Un certain Emmanuel Macron parlait de cette si belle école, ce joyau français, l'ENA.
Je pense que c'est une école qui donne beaucoup d'expérience et qui ne mérite pas ce qu'on en dit. Faut pas décrier l'ENA, qui, je crois, a beaucoup de vertus.
Bien sûr, beaucoup de vertus, bien sûr. Sur France Info, ils ont demandé son avis au patron de la CGT, Philippe Martinez.
Et donc, quelle sera la position de la CGT si l'ENA ferme? Alors, vous irez défendre les étudiants de l'ENA?
Je poserai la question à la section syndicale de l'ENA, mais je suis
Faudra
pas
un vote.
Dingue, il y a une section syndicale de la CGT à l'ENA.
Je poserai la question à la section syndicale de l'ENA, mais je suis
Faudra
pas
un
sûr.
Vote.
Je suis pas sûr qu'on en ait une.
Eh oui, il m'a bien eu, j'y avais cru. Sur LCI, André Bercoff a une belle image des étudiants de l'ENA.
L'ENA, c'est apprendre à des gens de 25 ans à mimer des gens de 65 ans.
Voilà, tu rentres à l'ENA, t'es un mix entre Kylian Mbappé et Raphaël Antoven, tu ressors, t'es Laurent Fabius. C'est dur la vie. Tiens, Nicolas Canteloup a imaginé ce matin la réaction sur le sujet d'Éric Ciotti, c'était intéressant.
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette mesure concomitante? Supprimer l'ENA. Mais quel monstre,
mais non,
franchement.
Mais c'est supprimer l'ENA, pas les nains. Oh là là, supprimer les nains. Mais...
Non, si c'est le cas, bon, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit.
Voilà, Mathieu Lavanne est pour vous. Alors j'ai tout de même trouvé quelqu'un pour défendre l'ENA. C'était il y a tout pile 2 ans, en mars 2017, c'était sur CNews.
J'ai passé des concours, j'ai eu des écoles, l'ENA en l'espèce, qui a tant fait parler. Je ne vais pas l'attaquer, cette école, je vais la défendre.
Ah bah oui, on compte sur vous.
Notre débat, l'ENA, mais pas seulement, évidemment. Merci beaucoup, Benjamin Muller. D'abord, simplement, Fabienne Keller, d'un mot. Vous n'êtes pas énarque, vous, c'est Polytechnique. Mais l'ENA est à Strasbourg, et vous avez été maire de Strasbourg. Vous êtes un peu partagé, j'imagine, non?
Bien sûr, d'abord parce que l'ENA, c'est important pour notre ville et qu'elle assure beaucoup de formations, on ne le sait pas assez, des fonctions publiques européennes. Parce qu'en fait, notre fonction publique, on la critique au niveau national, mais elle est admirée par sa rigueur, par la qualité de sa formation, vue de l'étranger. Et donc, notamment, les nouveaux États membres qui sont rentrés en 2004 et 2007 ont sollicité son appui pour organiser leur ministère de leur jeune démocratie. Donc, j'imagine que ce n'est pas une simple suppression, c'est une évolution qu'envisage le président. Pour quelle fonction publique? Je pense que c'est un beau sujet. Comment avoir une fonction publique peut-être plus mélangée entre les ministères et les territoires pour que chacun ait une expérience du niveau national mais aussi du niveau local, peut-être plus européenne aussi. Enfin, je pense que réfléchir à son évolution est quelque chose qui est intéressant. Mais je ne participe pas à l'élite bashing parce que je crois que ce n'est pas très bien de critiquer systématiquement ceux qui, voilà, qui réussissent des concours, parce que c'est quand même un concours.
Merci, merci Fabienne Keller, c'est très clair. Au moins 19h29 sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. Les pistes sont-elles à la hauteur? À la hauteur de l'enjeu ce soir, nous débattons de ces pistes évoquées par Emmanuel Macron, celles qu'il devait annoncer lundi soir. Vous restez bien sur Europe 1, je vous attends au 39-21.
Vos invités Mathieu Béliard jusqu'à 20h, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir la droite constructive, candidate aux européennes sur la liste Renaissance de Nathalie Loiseau. François Boulot, avocat, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen en Seine-Maritime, et Mickaël Darmon, éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1.
Baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches, suppression de l'ENA, donc réindexation des pensions de retraite pour ceux qui touchent moins de 2000 euros, ai-je noté. Également un moratoire sur les fermetures d'écoles ou d'hôpitaux. Ces premières pistes entrouvertes par Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes et pour sortir du grand débat national vont-elles dans le bon sens? D'abord, d'un mot, Mickaël Darmon, c'est vrai, ils sont si mécontents à l'Élysée que ces éléments aient fuité?
Oui, ils n'étaient évidemment pas heureux du tout de voir que tout ce qui avait été préparé dans le plus grand secret, avec l'effet de surprise, avec tous les éléments de langage bien marketés qui avaient été préparés depuis donc quelques jours, soit tout d'un coup divulgué dans la presse. De part et la conséquence, bien évidemment, de l'annulation, du report de l'allocution et surtout le fait que ça a été donc ensuite diffusé dans les médias, également dans certains ministères. C'est pour ça que ça s'est retrouvé sous forme de papier. Donc, le président de la République a aussi décidé hier soir, à la fois parce qu'il était sincèrement ému, parce qu'il a vu et compris de ce qui se passait autour de l'incendie de Notre-Dame, mais parce qu'il fallait également, au fond, tout simplement faire diversion, hein, comme on appelle dans l'armée. On a une conversation sur les vertus militaires il y a quelques minutes, eh bien, il a fait une opération de diversion avec cette proposition de reconstruire en 5 ans, très diversement discutée, mais c'est exactement le but, ne parler que de cela et faire descendre un petit peu donc, les autres mesures qui sont officiellement des pistes donc, dans l'actualité.
Je lisais cette interview sur Europe1.fr de Ingrid Levavasseur, Gilet jaune, de l'heure, qui appelle à revenir à la réalité après Notre-Dame. La réalité, nous sommes dedans, nous avons les deux pieds ancrés dans la réalité. François Boulot, dans ces mesures révélées par la presse, vous devez tout de même y trouver votre compte, certaines mesures.
Non, certainement pas. Je crois qu'on a la confirmation de ce qu'est le grand débat, en fait, depuis l'origine, c'est-à-dire un enfumage. Et c'était une stratégie de communication pour essayer d'anesthésier l'opinion publique et d'étouffer surtout le mouvement des Gilets jaunes. Mais en l'état, quand vous analysez ces mesures, alors qu'elles ne sont pas officielles, mais bon, on peut penser qu'effectivement, compte tenu du contexte, ce sont les mesures que le président de la République envisageait d'annoncer. C'est une plaisanterie. Je veux dire, il n'y a aucun changement de cap en réalité dans la politique qui est conduite. Si on prend la mesure peut-être la plus emblématique, qui consiste à dire qu'on va baisser les impôts, il faudra déjà savoir dans quelle proportion, qui va en bénéficier, et puis surtout les pistes qui sont données pour financer cette baisse d'impôts. C'est-à-dire qu'en l'état, on nous explique qu'il va falloir augmenter le travail. Alors soit en augmentant la durée légale du temps de travail, soit en supprimant des jours fériés, ou soit encore, me semble-t-il, en augmentant l'âge légal de départ à la retraite. Bon, en réalité, il n'y a absolument pas besoin d'employer des solutions de cet ordre pour financer la baisse des impôts. Il suffit de revenir sur les dispositifs fiscaux que Emmanuel Macron a fait adopter au bénéfice des 1% les plus riches au début de son quinquennat, c'est-à-dire l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. Toutes ces mesures-là représentent 30 milliards. 30 milliards. Je rappelle que l'impôt sur le revenu, les recettes de l'impôt sur le revenu, c'est 42 milliards. C'est-à-dire que si on revient sur ces dispositifs, on peut financer une baisse considérable de l'impôt sur le revenu.
Fabienne Keller, en organisant le grand débat national, ça a été évoqué dès le démarrage et aujourd'hui quand j'entends François Boulot et d'autres qui nous ont appelés par ailleurs depuis 17h sur Europe 1, est-ce qu'Emmanuel Macron n'était pas condamné à décevoir?
Alors en ouvrant le grand débat, il a fixé la barre très haut, effectivement, puisqu'il a permis une expression très diverse de centaines de milliers de personnes. Hein. Donc c'est très difficile de répondre à l'attente de tout le monde. Mais je ne partage pas l'analyse de M. Boulot. Il a bien perçu la demande très claire sur le pouvoir d'achat. C'était la première revendication, on se rappelle le prix de l'essence, par l'indexation des retraites en dessous d'un certain montant en tous les cas, par d'autres mesures sociales qui, bien sûr, qu'il faudra financer. C'est clair, la France n'a pas une situation financière très saine. Il a pris en compte aussi les difficultés du monde rural, c'est clairement à lui que s'adresse la mesure sur le moratoire sur les fermetures des écoles et des hôpitaux, sujet extrêmement sensible qu'on a vu apparaître pendant la campagne, hein, l'accès, le droit à la santé, qu'il faut le savoir, dans ces territoires sont souvent en fait assurés par les pompiers volontaires, qui sont en fait les gens très diffusés, très présents sur le territoire. Mais si vous me le permettez, moi, il y a une mesure que j'aime beaucoup, que je soutiens à fond depuis plusieurs mois, parce que je trouve que c'est une vraie mesure d'équité sociale, c'est l'agence publique de paiement des pensions alimentaires. C'est faire en sorte que toutes les familles monoparentales bénéficient des montants de compensation auxquels elles ont droit, alors que 40% des pensions aujourd'hui ne sont pas versées, mettant en difficulté très très majoritairement des jeunes femmes pour se loger, pour éduquer leurs enfants, etc. Donc je pense que c'est la bonne prise en compte d'un mouvement qui n'a pas crié le plus fort, mais qui était présent, c'était les femmes dans le mouvement
débat
des
sur
gilets
les
jaunes.
C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné encore. Absolument. Jusqu'à présent, parce qu'on en avait beaucoup parlé aussi ces derniers jours en amont. Il est 19h37.
Europe 1.
Ces mesures sont-elles à la hauteur de l'enjeu? C'est finalement la question. Vous intervenez au 39-21 si vous le souhaitez. Le débat continue jusqu'à 20h sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec vos invités Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir la droite constructive, candidate aux européennes sur la liste Renaissance de Nathalie Loiseau, François Boulot, avocat, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen en Seine-Maritime et Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1.
Cinq mois aujourd'hui, jour pour jour. Cinq mois, le premier samedi de mobilisation des Gilets jaunes. On va quand même aussi se souvenir qu'il y avait une révolte fiscale contre la taxe carbone à ce moment-là, le prix des carburants. Et cinq mois après, pour en arriver là, à ces propositions dont on parlait, ces fuites, si j'ose dire. Je fais très attention parce que c'est ce que devait dire Emmanuel Macron, mais il ne l'a pas dit. Donc il faut lui laisser le champ libre et la possibilité de revoir sa copie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cinq mois pour qu'on en soit là aujourd'hui, Mickaël ?
Tout d'abord, il s'est passé, vous l'avez dit, une révolte contre la taxe. Quand le peuple s'empare de la taxe, aucun syndicat, aucun gouvernement ne peut rien faire. Ça, c'est déjà quelque chose de majeur.
On le consentement à l'impôt.
À travers toute l'histoire du pays, c'est ce qui fait acte national, le consentement à l'impôt. Et ça, c'est évidemment déjà un tremblement de terre sur le plan politique. Ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, souvent, le président l'a dit et d'autres l'ont dit, et avec raison. C'était à la fois un conflit, en tout cas un soulèvement circonstanciel lié vraiment au temps que l'on vit et aux politiques publiques de maintenant, mais également qui viennent justement en réaction et en opposition et en soulèvement contre 30 ans de mauvaises politiques publiques qui n'ont pas, au fond, apporté des solutions aux problèmes des Français et qui n'ont pas pris en face la réalité de la situation française. C'est ça aussi la réalité. Et ça change complètement la configuration du quinquennat Macron. Même si, paradoxalement, on voit bien que cette crise de croissance du macronisme, peut-être, va lui permettre d'instaurer la véritable transformation qu'il avait finalement donnée pendant sa campagne. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Juste pour conclure, on a vu effectivement un président qui certes a fait le tour des places des villages de France pendant 7 heures pour parler devant les élus et récupérer une légitimité que peut-être lui manquait-il. Mais au fond, la question se pose, c'est est-ce qu'il a vraiment été élu pour ça ? Est-ce qu'il a été élu pour faire le tour des places de France et dire aux maires, aimez-moi ? La difficulté est là.
Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, on l'avait vu, il y avait eu la grande marche avant la présidentielle. Finalement, on l'a beaucoup dit, hein, on ne va pas le répéter, que ce mouvement des Gilets jaunes ressemblait aussi à ce dégagisme qu'on a connu en 2017.
C'est du macronisme en négatif, c'est-à-dire effectivement, ce sont aussi des gens qui veulent quelque part prendre leur destin en main et sans corps intermédiaire. Ce sont les conditions également de la campagne présidentielle.
François Boulot.
Oui, je crois que le président de la République, notamment, voudrait proposer la suppression de l'ENA. Bon, en fait, on voit effectivement quel est le problème de cette école aujourd'hui, qui forme des gens avec un logiciel idéologique qui est commun à tous et qui est totalement bloqué. Le problème, c'est que le président de la République en est issu et qu'il ne veut pas changer de logiciel idéologique, qui croit à la théorie du ruissellement, au tout pouvoir, au marché et l'État qui ferait systématiquement les choses en mauvais gestionnaire. En fait, ce qui est important au-delà des mesurettes qui sont annoncées, c'est ce que le président de la République ne dit pas. ou les sujets sur lesquels il ne fait rien. Il ne renonce pas à la privatisation d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, d'Engie ou les barrages hydrauliques. Il n'annonce aucune mesure pour lutter contre l'évasion fiscale. Je rappelle qu'elle est quand même évaluée à 100 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que demain, vous réglez ce problème-là. Je ne vous dis pas que ça se fait en un claquement
selon
de doigts.
Selon les sources, on sait, la difficulté aussi. C'est précisé, pardon, mais dans les pistes, puisque le document qui soi-disant n'existe pas, lutter contre l'évasion fiscale, c'est une piste annoncée qu'il avait annoncée.
Alors, il suffit pas de l'annoncer comme une grande déclaration de principe, parce que ça, c'est ce qu'on entend depuis des années et des années. Moi, j'avais proposé deux mesures à une émission qui était co-animée par Marlène Schiappa, qui était là déléguée par le gouvernement dans le cadre du grand débat national. J'avais dit, un, on instaure des peines planchers de prison pour les fraudeurs fiscaux à hauteur de 3 ans minimum. Comme ça, on est certain que si vous avez des fraudeurs fiscaux qui sont pris à main dans le sac, eh bien, ils vont aller en prison pour réinstaurer le caractère coercitif de la loi et avoir un véritable effet dissuasif. Et également, j'avais proposé que l'impôt, à l'image de ce que pratiquent les États-Unis, hein, qui n'est pas le pays le plus communiste a priori au monde, l'impôt sur la nationalité. Comme ça, vous arrêtez avec ce chantage des très très riches qui nous explique que si on essaie de les imposer juste comme les autres, hein, c'est-à-dire à proportion de leurs facultés, alors ils s'exileraient fiscalement et donc on serait obligé finalement de se mettre à genoux et de ne pas les imposer comme les autres. Moralement et économiquement, c'est inadmissible et il faut donc instaurer ces mesures pour lutter effectivement contre l'évasion fiscale. C'est, le président de la République n'en a pas dit un mot.
C'est le fond de ces 5 derniers mois que nous avons vécu, le consentement à l'impôt, Fabienne Keller. Vous voyez acquiescer tout à l'heure.
Bien sûr, on le rappelait, c'est ce qui a déclenché le mouvement. C'est une exaspération, en fait une difficulté à vivre, le quotidien. Hein. Je n'arrive plus à payer mon plein essence. Or celui-ci, moi qui vis en milieu très rural, mais indispensable pour amener les enfants à leur activité sportive ou culturelle, pour aller au travail, c'est la dépendance à la voiture. Donc il faut l'entendre, un moratoire a été décidé très vite en décembre, il faut le rappeler, hein, puisqu'il y a déjà eu 10 milliards de mesures annoncées en décembre, auxquelles vont s'ajouter les mesures que doit bientôt annoncer ou confirmer le président de la République. Mais je ne peux pas laisser dire que le gouvernement, comme toutes les administrations, ne sont pas tendues vers la lutte contre l'évasion fiscale. C'est un combat. Ceux qui s'évadent ont des techniques de plus en plus sophistiquées. Un certain nombre d'outils numériques facilitent les transferts d'argent dans des délais, dans des conditions de confidentialité sans cesse améliorées. C'est une volonté que le gouvernement et le ministère des Finances en particulier, comme l'administration judiciaire, portent fortement. Ont-ils tous les outils techniques ? Ça, ce n'est pas sûr. Je rappelle aussi que la France est très active à l'OCDE sur ces sujets, qui fait un travail remarquable.
Mais très concrètement, François Boulot parlait de peine de prison avec des peines planchers ou encore d'impôts liés à la nationalité, ce qui se fait aux États-Unis pour le coup. Est-ce que ce ne serait pas plus coercitif ?
Alors sur la peine plancher, je pense qu'elle est dans l'arsenal dont les juges disposent en cas de poursuite. J'imagine qu'ils l'appliquent quand ils estiment que la fraude est extrêmement avérée.
Vous voyez l'exemple de Jérôme Cahuzac, pardon je vous interromps, mais qui a écopé d'une peine de prison de 2 ans. Jusqu'à 2 ans, c'est aménageable et donc il n'ira pas en prison. Il a un aménagement via un bracelet électronique, donc il ne va pas en prison.
Il ne va peut-être pas en prison, mais je pense que M. Cahuzac a été lourdement... Par la médiatisation qui lui a été donnée.
Parce qu'en plus, il y a une circonstance aggravante à la fraude fiscale dont il était l'auteur, c'est qu'il était ministre.
C'est dommage que nous discutions sur ce sujet qui fait l'objet d'un grand consensus. Ceux qui doivent être poursuivis sont ceux qui trichent. Et ceux qui doivent être travaillés avec détermination, je pense en particulier au niveau européen, c'est cette optimisation fiscale interne à l'Europe, c'est-à-dire où on sécurise les flux de capitaux, mais on accorde des conditions fiscales tout à fait inacceptables.
C'est vrai, pardon, mais c'est, pour répondre à la question du débat posé ce soir, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu ? L'enjeu, au fond, c'est, dans la situation actuelle, c'est de rebâtir un projet national. C'est de voir comment, au fond, on fait évoluer cette vieille 5e République vers le 21e siècle. Parce que c'est un peu ça, quand même, l'enjeu. Donc, il y aura bien sûr des tâtonnements, il y aura peut-être des mesures qui seront intéressantes. Ça changera la configuration du pays, peut-être dans 15 ans, dans 10 ans, et peut-être également pour certains dans quelques mois. Mais force est de constater que les Gilets jaunes ont accéléré comme accélérateur de particules l'évolution de la République d'aujourd'hui.
19h47.
Europe 1.
La République, justement, parlons aussi des outils démocratiques avancés. Je sais que François Boulot, vous me direz dans un instant si c'est toujours le cas, vous preniez un retour aux urnes. Il y a aussi d'un mot, je voudrais parler du référendum d'initiative citoyenne au niveau local qui fait partie des propositions. 19h47, on revient dans quelques instants.
Vos invités, Mathieu Béliard, sur Europe 1. Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir, la droite constructive, candidate aux européennes sur la liste Renaissance de Nathalie Loiseau. Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1, et François Boulot, avocat porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, en Seine-Maritime.
La dernière fois que nous nous sommes parlé, François Boulot, vous preniez un retour aux urnes. Je crois que vous m'avez même parlé de dissolution de l'Assemblée nationale. Concrètement, aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de démocratie, de restaurer la démocratie. Dans les propositions qui ont fuité, il y a cette idée d'un référendum d'initiative citoyenne qu'on a tant entendu, qui a été tant réclamé au niveau local. Est-ce que déjà, sur cette piste-là, on peut vous mettre d'accord ?
Ah, je veux simplement, juste en un mot, revenir sur l'évasion fiscale. Non, moi, je pense que le gouvernement n'a aucune volonté de lutter contre l'évasion fiscale, puisqu'il fait précisément des cadeaux à ceux dont on sait que ce sont ceux qui vont pratiquer l'évasion fiscale. Donc, en fait, ils sont dans la théorie du ruissellement. Ils pensent que ces gens-là vont investir dans l'économie.
Je sais qu'on ne vous mettra pas d'accord là-dessus.
Non, mais je voulais dire, parce que je pense qu'effectivement, il y a une absence de volonté totale sur l'évasion fiscale. Sur la question de la démocratie, effectivement, de toute façon, le président de la République avait indiqué dès le départ qui était tout à fait hostile à un référendum d'initiative citoyenne au niveau national, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de déclencher des référendums sans verrou parlementaire. Bon, il le confirme puisqu'en fait, il veut bien accorder des RIC locaux, c'est-à-dire sur des sujets en fait qui n'auront aucune importance, où les gens n'ont pas de prise puisque tout est contraint par le cadre national et le cadre européen. Et d'ailleurs, madame la sénatrice l'a indiqué, la France effectivement est dans une situation budgétaire contrainte avec la règle des 3% de déficit qui fait qu'effectivement, si vous n'avez pas les mains libre, on peut vous interroger sur tel sujet ou tel sujet, mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas faire de miracle. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le référendum d'initiative partagée, il est uniquement question d'assouplir ces conditions de mise en œuvre dans des proportions selon des modalités que nous ne connaissons pas encore. Mais de toute façon, ça ne répond pas aux demandes du mouvement, puisque le mouvement souhaite que le référendum soit déclenché sans verrou parlementaire.
Fabienne Keller, on a beaucoup... Allez-y, si vous voulez y répondre.
Oui, sur cette démocratie participative, hein, comment l'organiser et à quelle échelle ? Est-ce que les gens ont plutôt envie de participer à quelque chose de local, ce qu'ils font déjà beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de collectivités locales, notamment de municipalités, qui sollicitent l'avis, qui dialoguent, et ou au niveau national. Et quelle place pour la démocratie représentative, c'est-à-dire les gens désignés, dont c'est le boulot, qui étudient les dossiers. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que ça a été une demande des Gilets jaunes, mais d'un autre côté, qu'on ne peut pas consulter les Français sur tout. Nous connaissons bien la situation des Suisses, hein, qui font des votations tout le temps par canton. Il y a un moment aussi où cela paralyse beaucoup, hein, et parfois conduit à des choix contradictoires. Donc il faut quand même qu'il y ait des gens responsables de politiques mises en œuvre pour permettre l'expression. Elle est possible, hein, on le voit sur la privatisation d'Air France à travers un processus très lourd. Que va décider le président ? Mais je trouve qu'il n'y a pas de réponse simple et on ne peut pas considérer qu'on répond aux gens en grande difficulté du quotidien des ronds-points en leur proposant un RIC à l'échelle nationale. Ce serait d'une certaine manière, je pense, les tromper. Ils attendent beaucoup plus des mesures concrètes, de la baisse, par exemple, de la TVA sur les produits nécessaires, sur des mesures sociales.
Vous savez bien la baisse de la TVA qu'on ne peut pas.
Dans le cadre des traités européens.
On peut, dans une certaine proportion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'à zéro. Oui. Mais on peut appliquer des taux
sur une
plus
liste
bas
limitée de produits définis à 28.
Pour un certain nombre de produits, il y a par exemple les produits d'hygiène qui, pour la plupart, sont à des niveaux de fiscalité élevés. Ils sont aussi à des prix relativement élevés. Je peux vous en parler puisqu'à Strasbourg, les gens vont en Allemagne pour les acheter. Donc, il y a des mesures qui n'intéressent peut-être pas ceux qui parlent fort, mais qui intéressent les personnes qui souffrent sur les territoires.
Mickaël Darmon.
Oui, en fait, l'enjeu aussi pour le président de la République, il est tout simplement de savoir comment il relance et fait redémarrer son mandat et son quinquennat, qui est quand même à l'arrêt depuis cette crise. Il faut savoir quand même et bien le dire, parce que c'est évidemment pas le gouvernement qui va le dire, mais ça a totalement sidéré l'exécutif. Il y a depuis le début une très grande difficulté d'appréhender quelle est la réalité de ce soulèvement qui n'est pas une crise sociale classique, qui est un soulèvement profond, qui est un soulèvement contre toutes les politiques publiques qui depuis 30 ans n'ont pas été appliquées et avec un cadre, je dirais, d'un récit national, puisqu'on parle beaucoup ces jours-ci de récit national, où on avait expliqué aux Français qu'ils avaient gagné la guerre, que c'était les meilleurs, que le paradis social serait financé ad vitam aeternam. Tout ça, c'est terminé. dans un cas d'ailleurs que souvent le président Macron essaye de recadrer, c'est-à-dire une évolution mondiale internationale qui change complètement les rapports de force. Il suffit de voir ce qui se passe avec la Chine, les routes de la soie qui prennent l'empire, la zone européenne comme tout simplement un vassal. Donc il faut réorganiser tout cela, et cela, cette crise des Gilets jaunes est effectivement une expression des crispations internationales que l'on vit et qui nécessite que l'on change aussi de modèle et de mode de fonctionnement.
D'un mot, c'est terminé pour le débat, Michael Darmon. Emmanuel Macron va prendre la parole. Ça a été décalé, il va s'adresser aux Français.
D'après ce que l'on comprend, ce qu'on veut ne pas nous faire comprendre également, sera dans le courant de la semaine prochaine.
Je pense qu'il a renoué le dialogue avec les maires et les territoires et il doit prendre la parole, il va prendre la parole.
Je vais me faire gronder.
Vis-à-vis de l'ensemble des Français.
Je suis un peu en retard. Les pistes entrouvertes par Emmanuel Macron. Nous en avons parlé, débattu depuis 19h20. Merci Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vice-présidente d'Agir, la droite constructive. Merci d'être venue dans le studio ce soir. François
Merci
Bouleau, aussi porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Je pensais simplement à tous ces débats que nous avons eus sur Notre-Dame depuis 17h, Rouen et Strasbourg. Nous avions deux très belles cathédrales
Absolument.
Représentées dans notre studio ce soir. Michael Darmon, merci beaucoup. À demain matin, 5h45.
6h45.
6h45, oui, pardon. On a changé d'heure.
Heure de Paris.
Merci beaucoup, Michael Darmon. Il est 19h55. Bonsoir, Émilie Mazoyer.
Il est en décalage horaire.
Un petit
Il
peu.
Il a un petit jet lag.
Un petit peu. Regardez, on va vous rendre à l'heure habituelle, Émilie Mazoyer.
C'est formidable. Merci, Mathieu.
Merci de nous avoir prêté un peu de votre espace ces deux derniers soirs.
Normal, actu oblige. Mais ce soir, là, je reprends la main. Actu oblige. Elmer Footbeat est de retour.
Le plastique, c'est fantastique.
Idole, ils ont changé ma vie en 1990 quand j'ai découvert cette chanson.
Daniela, la caissière de chez Leclerc. Je reste jusqu'à 22h.
Et ils reviennent avec un nouvel album qui sort vendredi, qui est super bien, qui s'appelle Back in Beat. On va en parler. Ils seront en live avec nous tout à l'heure.
Merci. Belle soirée en musique, avec le sourire en plus. Et avec Émilie Mazoyer jusqu'à 22h. À demain, Ambline.
À demain. Merci, Mathieu Béliard. 17h demain. L'information assure avec Isabelle Mies sur Europe 1.
Europe 1.